Bonjour à tous. Bonjour. Ça répond aujourd'hui. Bonjour à ceux qui sont aussi au loin, mais derrière l'écran. Bienvenue à chacun. Merci pour cette introduction si gère. L'histoire de l'humanité a effectivement un sens et une direction. Et la naissance de Jésus à Noël fait partie des promesses annoncées et réalisées au cours de cette histoire. C'était d'ailleurs le thème de notre fête de Noël. Un accomplissement de promesses. C'était bien ça la thématique. Mais l'histoire avance. Et le petit enfant qui est né dans une étable a maintenant 33 ans. Et il nous invite désormais à considérer la suite de l'accomplissement de ses promesses. Et notre texte, aujourd'hui, y contribue. Et je m'aperçois que j'ai la télécommande. Voici le texte. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci répondirent « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Ce jour-là, c'est le jour de l'avènement du Fils de l'homme, expression qui désigne le retour de Christ sur cette terre. Et cette expression « Fils de l'homme », Jésus vient de l'employer à plusieurs reprises dans le chapitre précédent, chapitre 24. Et cette expression, il la tire volontairement du prophète Daniel, Daniel 7, verset 13, le Fils de l'homme. Et Matthieu, ici, comme Marc et Luc, reprennent, pour tout ce qui concerne la fin des temps, cette expression. Ils attestent ainsi que c'est bien celle que Jésus a employée volontairement. Alors, comment lire cette parabole? D'abord, il y a des questions simples. Mais on verra qu'il y a des questions compliquées. Les questions simples. Qui est l'époux? Ça, ce n'est pas la question la plus difficile. Ce thème de l'époux, il est déjà familier aux disciples de Jésus quand il raconte cette parabole. Et je pense que plusieurs d'entre eux ont en tête ce texte d'Ésaïe 62, versets 4 et 5. « On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera, mon plaisir éternel. » Et on l'appellera ta terre mariée. Car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Ils ont ce texte en tête, les disciples. Ils en ont certainement un autre, celle d'un contemporain d'Ésaïe, le prophète Osée, qui écrit « C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor, deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras « mon époux » et tu ne m'appelleras plus « mon Baal, mon maître ». Ils ont ça en tête, les disciples, dans leur culture. Mais Jésus est déjà allé un pas de plus avec eux. Comme il est écrit dans Matthieu 9, 14 et 15, il y a un épisode où Jésus se situe dans cette lignée-là. Je lis le texte. « Alors les disciples de Jean vinrent retrouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Et Jean-Baptiste, lui-même, savait tout à fait à quoi s'en tenir, sur qui était l'époux. Voilà ce qu'il répond à ceux qui l'interrogent sur Jésus. Jean 3, verset 28-29. « Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée ? Au marié. Quant à l'ami du marié, et l'ami du marié, c'est comme ça que Jean-Baptiste se situe, quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie. Et à présent, elle est complète. Oui, Jean-Baptiste, lui, il a bien repéré l'époux. » Alors pourquoi un mariage ? Un mariage, c'est assez simple aussi, parce que le texte parle de salle de noces même. On sait dans quel contexte on est. Mais ça fait quand même penser à certains textes que vous avez certainement en résonance dans la tête. Apocalypse 19, 6, 8, parle de noces aussi. « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse. » Et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Jean-Baptiste lui-même, il avait employé ce mot de l'agneau quand il avait vu Jésus venir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. L'agneau, les noces de l'agneau, tout le monde, au moment où Jésus prononce cette parabole, tout cela en tête. Nous sommes donc dans un contexte de noces, et Jésus nous invite donc, ni plus ni moins, à considérer son retour comme une fête de mariage. Mais il y a une question qui demeure quand même. Qui est l'épouse ? Ah, surprise ! On ne sait pas. Elle n'est pas décrite. Où est-elle ? Qui est-elle ? Le texte n'en dit rien. Et dans les textes de l'Ancien Testament, comme on l'a vu en lisant Ésaïe et Osée, la fiancée, la mariée, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. C'est l'Israël d'alors. Pour Ésaïe, c'est même Jérusalem comme symbole de cette nation que Dieu s'est choisie. Mais là, qui est-elle exactement ? Quel est cet Israël du moment où Jésus parle ? Et surtout au futur, quel sera cet Israël où s'accomplira ce que Jésus est en train d'annoncer ? Vous le voyez, la parabole, elle parle finalement quasiment pas, elle parle pas de l'épouse. Bizarre. Alors il y a des questions simples, mais il y a des questions beaucoup plus compliquées. Il y a des interprétations qui peuvent être nombreuses, alors ça. Bon, les 10 vierges, c'est pas encore le plus dur, parce que c'était une coutume que des jeunes filles, qui était donc vierge, qui n'a pas eu de relation sexuelle, et vu l'âge des mariages à l'époque, c'est plutôt 13, 14, 15 ans, hein, les jeunes filles dont on parle, elles faisaient partie des relations de la mariée. Et elles avaient un rôle particulier dans la fête du mariage. Ce sont des amis de la mariée ou des proches, des connaissances du cercle. et elles font partie du décor ordinaire d'un mariage juif. C'est comme ça que ça se passe. Elles ont un rôle particulier, on va y revenir. Mais certains commentaires de cette parabole que j'ai pu consulter se posent beaucoup de questions sur chaque sujet et creusent chaque mot, chaque expression de façon étonnante parfois. Je vous donne des exemples. Les questions qu'on se pose. Pourquoi 10 vierges? Pourquoi 10? Alors ça en fait couler de l'encre. Je vous donne 3 pistes. 10, ça serait un chiffre symbolique qui renverrait aux 10 paroles d'Exode 20. Bon. 10, parce que le yod, qui représente la main créatrice de Dieu, son pouvoir de création, le yod, la lettre yod, c'est la 10e lettre de l'alphabet. Deuxième interprétation. Troisième interprétation, qu'est-ce que j'avais encore vu? Je ne sais pas trop d'ailleurs ce que ça apporte au texte. J'avais encore vu autre chose, mais je vous en fais grâce. Merci. En fait, 10 accompagnatrices, c'est un chiffre bateau. 10, c'était un minimum qu'il fallait pour faire un cortège à l'époque. Ça n'a pas de signification particulière. Certains cherchent. On n'est pas obligé d'en trouver une. C'est un chiffre bateau. Pourquoi 5 et 5? 5 sages, alors moi dans mes traductions on disait avant 5 sages, 5 folles. Pas très sympa. 5 avisés, 5 insensés, c'est quand même un peu mieux. Je préfère. Et puis d'ailleurs, le texte grec, le mot grec, moros, veut plutôt dire insensé. Il veut dire aussi quelquefois stupide. Mais pas folle. Eh bien, pour saint Augustin, pourquoi 5? Parce que ça correspond aux 5 sens que nous avons tous. Bon, d'accord. On ne voit pas trop la signification. D'autres vont jusqu'à dire, et je l'ai lu, que toute personne humaine est une combinaison de sagesse et de folie, et qu'il faut voir ces 10 vierges comme une représentation de chaque être humain, avec sa part de lumière, avec sa part d'ombre. Bon, est-ce que ça nous mène quelque part? L'huile a-t-elle une signification? Ah, ce sujet a fait couler beaucoup d'huile. Parce qu'il est vrai que l'huile occupe une place de choix dans la culture moyenne orientale. Et ça, nous le savons. Sur un plan pratique, l'huile à l'époque, c'est un aliment, bien sûr. C'est un soin pour le corps. C'est un médicament. C'est un cosmétique. Dans les cheveux. Et c'est un combustible, comme dans notre histoire. L'huile a une part très importante au moment où Jésus emploie cette parabole. Mais au-delà de ces aspects pratiques, l'huile, elle a une symbolique très très forte. Dans Exode 29,7, Moïse verse de l'huile sur la tête d'Aaron en signe de consécration, ou encore Saül est consacré par Samuel avec une onction d'huile, 1 Samuel 10, verset 1. C'est l'action de l'Esprit de Dieu qui est ici figurée dans ces textes. Inversement, l'huile, c'est aussi une offrande de reconnaissance possible. Jacob, par exemple, verse de l'huile sur la pierre où reposait sa tête après sa vision, et il recommence ce geste à Bethel, sur le lieu où Dieu lui a parlé, Genèse 35,14. Donc l'huile a une place centrale dans la culture juive, l'huile a une symbolique très très forte, c'est vrai, au moment où Jésus parle. On peut avoir une lecture spirituelle de ce qu'est l'huile dans cette parabole, et beaucoup de commentaires le font. Ainsi, on note que beaucoup assimilent l'huile dont il est question à l'Esprit de Dieu, mais alors, moi je me pose une question, qu'est-ce que ça veut dire ce conseil des sages aux insensés? Courez plutôt vous acheter de l'huile. Est-ce qu'on peut acheter de l'Esprit de Dieu? Vous voyez que rapidement on touche à des limites. Et puis alors, autre question. Pourquoi? Non, c'est pas ça. Non, je suis en avance. Bon, il faut que j'aille, faut que je recommence peut-être. Oui. Tu me le remets? La 16, si tu trouves. Super, merci. Pourquoi la mariée est en retard? Alors là aussi, vous avez des interprétations incroyables. Il y a un auteur, un théologien luthérien, qui a trouvé que la raison, c'était certainement que les négociations sur l'arrangement financier entre les parents de la mariée et le futur époux se prolongeaient. Moi, j'ai du mal à trouver ça dans le texte. Ou alors, je n'ai pas tous les manuscrits. C'est une thèse. Bon, ceci dit, sans la plaisanterie, un retard dans un mariage, ça n'a rien d'étonnant. Mais là aussi, si on veut avoir une lecture spirituelle de cette parabole, il faut se rappeler ce que dit Pierre. 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Et finalement, il n'est pas sûr que cette lecture spirituelle du retard soit pertinente pour appréhender cette parabole. Le marié dans notre histoire, il est peut-être objectivement en retard. Mais je remarque, et là c'est une remarque un peu perfide pour les filles insensées, jeunes filles insensées, elles n'ont pas profité du retard pour aller se rééquiper en huile. Mais ça c'est un peu méchant, je le laisse de côté. Mais quand même, toutes ces questions qui se posent, elles en masquent deux importantes. Les plus importantes, je suis sûr que vous les avez. Pourquoi les cinq sages refusent de partager avec les insensés? Pourquoi le marié dit qu'il ne reconnaît pas les cinq insensés? Ça nous choque aujourd'hui. On dirait quel manque de sororité entre les sages et les insensés. Ça nous choque. Et pourquoi le marié ne passe pas l'éponge sur les tourderies? Pourquoi il n'ouvre pas la porte? C'est les deux questions qui taraudent le plus les théologiens, les exégètes et les commentateurs. Et moi, je vous propose de revenir tout simplement à la parabole. Là, depuis 10 minutes, vous me dites, il est très démolisseur dans tout ce qu'il raconte, Olivier, aujourd'hui, mais quand est-ce qu'il va construire quelque chose? Moi, je note que Jésus a expliqué ses paraboles quand il avait besoin de le faire, et il l'a fait pour la parabole du semeur, par exemple. Mais Jésus n'a pas forcément eu besoin d'expliquer toutes ses paraboles. C'était pas forcément nécessaire. Il y a un commentateur dont j'ai bien apprécié le point de vue qui dit la chose suivante vis-à-vis de cette parabole. Attention à ne pas se perdre dans les détails d'une parabole pour en tirer une théologie tordue et qui nous arrange. Le but d'une parabole, dit-il, est d'illustrer, de dégager une ou deux vérités simples, pas de développer des arcanes, des mystères d'interprétation. Il s'appelle Zach Poonen, celui qui écrit ça. Et moi, j'ai tendance aussi à considérer que Jésus emploie des images dont ses auditeurs sont familiers, les mariages, une noce, un cortège. Ils savent à quoi ça correspond. Jésus ne cherche pas à perdre les disciples. Il ne leur propose pas des énigmes. Le but, c'est de les faire réfléchir à partir de situations de vie quotidiennes pour dégager une vérité simple, mais une vérité qui est essentielle. Et dans chaque parabole, on a l'habitude de le dire, il y a ce qu'on appelle une pointe. Ce qu'il faut chercher dans la parabole, la pointe. Et le récit que Jésus arrange à propos d'une noce n'a qu'un but, c'est mettre en valeur cette pointe. Et la pointe du récit ici, c'est quoi? C'est que lors du retour du Fils de l'homme, il y a des gens qui seront pas préparés de la même manière. Il y en a qui seront vraiment préparés, fin prêts, puis il y en a qui ne seront pas aussi prêts qu'ils ne le pensaient. On peut se perdre dans les détails, hein. On peut retourner tous les mots d'un texte comme une parabole comme celle-ci, on peut faire de l'archéologie du texte. Mais l'essentiel réside dans ce qu'on retiendra du texte. Le retour du Christ doit avoir lieu, l'histoire a un déroulement, il est annoncé, et pour autant il se peut que je ne l'attende pas vraiment. Et cette parabole n'est pas à lire isolément d'ailleurs, et l'évangile de Matthieu regroupe volontairement en deux chapitres. C'est le dernier des cinq discours de Matthieu, les chapitres 24 et 25. Dans l'évangile de Matthieu sont volontairement regroupés un ensemble de textes qu'il faut lire, j'allais dire presque ensemble, chapitre 24 et chapitre 25. C'est pour ça que c'est très difficile quelquefois de tronçonner un texte et d'aller chercher une parabole et de l'isoler du reste. Et ce discours qu'on appelle le discours sur la fin des temps, c'est le cinquième et dernier discours de Jésus dans cet évangile, eh bien, seul Matthieu les a organisés, dans un souci très certainement pédagogique. Parce qu'avant cette parabole, voilà ce que l'on trouve, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais Jésus annonce les épreuves des derniers temps, et notamment la destruction du temple de Jérusalem comme premier signe. Il raconte la parabole du figuier. Ce sont des signes du retour qui seront à considérer comme, par exemple, un désordre dans le cosmos qu'il décrit. Il décrit un retour qui sera une surprise, un éclair, un instant, très rapide. Et il raconte la parabole des serviteurs qui sont au service des autres et des serviteurs, les mauvais serviteurs qui exploitent les autres. Et revenir à la parabole, ça veut dire qu'il faut la considérer comme une illustration utile à l'ensemble de ce que Jésus vient de dire. Revenir à la parabole, c'est comprendre qu'être disciple, c'est aussi être prêt. Ça fait partie de l'ensemble à son retour. Alors finalement, on a des questions, hein. Qu'est-ce qui caractérise les cinq insensés ? Ben, en apparence, pas grand-chose. Si vous lisez bien le texte, elles ont pris leurs lampes, elles se sont endormies, toutes, les cinq avisées, les cinq insensées, ont pris leurs lampes, se sont endormies de fatigue. Elles réagissent toutes à l'appel du marié, jusque-là, tout pareil. Mais il y a un élément majeur dans la parabole, c'est que les cinq filles insensées n'accomplissent pas leur mission. J'aurais tendance à dire que la pointe de la parabole, elle est là aussi. Quelle mission ? Leur mission, les cinq sages comme les cinq insensés, leur mission aux dix, c'est de faire un cortège. C'est ça, leur job. Oui, ça fait partie du mariage. Elles ont une mission particulière. Il faut aller chercher le marié. Non. Le marié arrive, mais il faudra surtout aller avec le marié, en l'éclairant avec les torches, chercher la mariée, et il faudra aller amener le couple au lieu de la noce. Voilà leur mission, voilà ce pourquoi elles sont missionnées. Et c'est hyper important, pourquoi ? Parce qu'il faut faire cortège, il faut faire honneur, il faut faire savoir qu'il y a un mariage. Quelque part, c'est le klaxon de l'époque. Les torches en question et les chants. C'est le klaxon du cortège. Et c'est leur job, aux dix. Ça fait intégralement partie de la réussite. Si vous avez une noce qui n'est pas éclairée, où on ne chante pas, où on ne fait pas du bruit, ce n'est pas une noce. La noce, elle a besoin de tous ses ingrédients. Et les cinq ont toutes la même mission. Alors, est-ce qu'on peut reprocher aux jeunes filles insensées de vouloir juste rattraper le coup en demandant aux cinq sages de leur partager leur huile ? Ah, ça serait un beau geste de solidarité, n'est-ce pas ? Oui, mais non. Ça ne serait pas un geste de solidarité. Ça serait risquer la panne de lumière pour le cortège par manque d'huile, cette fois-ci non pas pour les cinq, mais pour les dix. et ça serait le non-accomplissement de la mission. Alors on peut dire les cinq sages ne sont pas très sympas. Oui, mais les cinq sages, elles ont compris qu'elles ont une mission à mener jusqu'au bout. Elles ne peuvent pas hypothéquer la mission qui est la leur. Ce n'est pas possible. Elles ont un seul souci, les cinq sages, c'est aller jusqu'au bout de la mission. Alors, vous voyez, on lit les choses différemment ainsi. Nos critères de solidarité, notre rejet de l'égoïsme nous feraient mal juger de l'attitude des cinq sages. Mais en fait, il y a cortège. Parce qu'il y a cortège, il y a de la joie. Parce qu'il y a de la joie, il faut qu'on l'exprime. Il faut qu'on accompagne. C'est essentiel. Et il y en a cinq qui participent parce qu'elles sont complètement préparées avec leurs réserves d'huile. J'allais dire, pensez-y la prochaine fois que vous ferez le plein d'essence dans un mariage. Et donc, le marié. Le marié, si elles avaient été là, les dix, et surtout les cinq insensés, ils les auraient vus dans le cortège. Ils les auraient vus participer à la joie du cortège, être complètement dans l'action avec les cinq sages. Ils les auraient vus agir. Ils auraient repéré tout ce qu'elles faisaient pour rendre la manifestation belle. Mais lui, le marié, il n'en a vu que cinq. Sur les dix prévus. Alors quand les insensés se présentent à la porte de la fête, il n'y a pas de raison de les faire entrer. Que dit le texte ? Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je vous ai pas vu dans un cortège quel qu'il soit. Vous me dites que vous arrivez maintenant avec vos torches, mais je ne vous connais pas. Désolé. Je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Elle n'était pas là au moment essentiel, au moment de l'action, au moment de la mission. Et cette parabole, c'est une illustration très directe et très simple de tout ce que Jésus a dit auparavant. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est une illustration de ça. Encore une fois, on peut faire l'archéologie du texte, tout ce qu'on veut, très profond, mais la pointe, elle est là. Alors, ce n'est pas un texte qui nous est laissé pour nous brosser dans le sens du poil. Jésus est très direct dans tous les textes que Matthieu rassemble. On préfère commenter le discours sur la montagne, tellement plus chouette à écouter, à entendre, heureux, 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 tellement plus fun. Le cinquième discours, il est tellement plus dur, il dit des choses nettes. Alors l'application pour nous, il ne faut pas la chercher bien loin, c'est Jésus lui-même qui la précise, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » L'histoire a une direction, elle ne fait pas du surplace, et tout ça il l'a déjà dit à plusieurs reprises dans le chapitre 24 qui précède, et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut considérer cette parole des jeunes filles comme une illustration qui vient à l'appui de tout ce qui a été dit précédemment. C'est cash, c'est net. Mais moi, j'ai quand même tendance à croire, on parlait de promesses tout à l'heure, à celui qui fait des promesses, mais à celui aussi qui les accomplit, à celui qui annonce sa mort et à celui qui annonce sa résurrection. Pourquoi ne lui ferais-je pas confiance quand il annonce son retour ? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Verset 35 du chapitre 24. Mes paroles sont plus dignes de votre confiance que la durabilité de cette planète. Tenez-vous en éveil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Rassurez-vous, on va se diriger vers la conclusion. Nous avons vu tout à l'heure que Jésus avait développé avant cette parabole plusieurs choses dans ce discours sur la fin des temps. Et qu'est-ce qui suit la parabole ? Eh bien, tout simplement, deux éléments importants, la parabole des talents et l'annonce du jugement de l'humanité. Voilà l'ensemble des chapitres 24 et 25. Et ce chapitre 25, à sa suite, nous enseigne deux choses essentielles au sujet de ce que c'est que de veiller. en premier lieu, veiller, c'est pas attendre en se disant « à quoi bon ? Le monde est fichu, de toute façon, j'attends le retour de Jésus. » Eh bien, figurez-vous que j'ai quand même un peu, moi, dans mon adolescence, entendu ce genre de choses. Jésus revient. Ok, on a hâte. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Eh bien, il y avait des positions dans mon milieu évangélique qui étaient « à quoi bon ? À quoi bon s'investir ? Ça ne vaut pas la peine. Ce monde ne mérite pas qu'on s'investisse pour lui. De toute façon, Jésus va revenir. » Eh bien, la parabole des talents dit exactement le contraire. Exactement le contraire. Vous la connaissez, je n'ai pas à la relire, mais un homme remet à ses serviteurs une somme d'argent, plus ou moins importante, et il en remet plus ou moins selon les capacités des personnes auxquelles il les remet. Après un long temps, dit le texte, il revient, il demande à chacun qu'est-ce qu'il a fait des sommes confiées. Il y en a deux qui ont, selon la mesure de ce qu'on leur avait confié, qui ont doublé la mise. Et puis, il y en a un qui a enterré complètement la somme confiée parce qu'il ne voulait pas prendre de risque. Eh bien, justement, veiller, c'est assumer ses responsabilités et ce n'est pas ne rien faire. Et le troisième en question, il n'a pas osé s'engager, il n'a rien fait, il a enterré cette somme d'argent en attendant que le Seigneur la lui réclame. Veiller, ça n'est pas rien faire, c'est assumer des responsabilités, grandes ou petites, dans le monde où nous sommes, c'est pas les fuir. C'est ce que ce texte suit directement ce qu'on vient de dire sur le retour à travers la parabole des 10 vierges. Il y a des choses à faire dans notre société, dans notre famille, dans notre quartier, là où nous sommes, dans notre église. Et j'ai lu récemment une prédication sur ce sujet où les deux choses étaient opposées. Et c'était intitulé « Attendre le retour du Christ ou vivre du Christ maintenant ». Pourquoi les deux s'excluraient-ils ? Veiller, c'est s'engager. Ce que nous avons reçu ne doit pas être seulement conservé, sauvegardé. C'est ce que fait le troisième serviteur. Il garde l'argent en l'enterrant. Et ce que nous avons reçu, Jésus nous encourage à le faire fructifier. Là aussi, la parabole, ce n'est pas une énigme. Elle dit bien ce qu'elle veut dire. Donc, soyez des acteurs, soyons des acteurs, tous les jours. Et puis pour terminer, ce chapitre 25 de l'évangile de Matthieu se conclut par ce que Jésus dit à propos du jugement dernier. L'histoire du monde a une direction, nous l'avons déjà souligné, mais à propos de ce jugement, il faut souligner qu'il s'exercera à l'égard de tous les peuples de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les paroles de Jésus que l'évangile de Matthieu rapporte. Et il faut souligner surtout que ce jugement s'appuiera aussi sur la prise de considération du faible autour de nous. Prenez garde aux plus fragiles. Chapitre 25, il se termine là-dessus. Et que dit le texte ? Alors les justes demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Ou quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli ? Ou nus, et avons-nous vêtus, ou malades, ou prisonniers, et sommes-nous venus te rendre visite ? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Prenons garde aux plus faibles. Alors, en conclusion, et là je conclue vraiment, le message principal de la parabole des 10 vierges n'est pas autre chose que celui-ci. Jésus insiste. Attendez-vous à mon retour. C'est une réalité, c'est une promesse. Une promesse. C'est ce que les apôtres entendent au mont des Oliviers quand ils sont dans la tristesse du départ de Jésus. Et que leur dit à ce moment-là une voix, « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Acte 1, verset 11. Il leur faut, eux aussi, à ce moment-là, redescendre du mont des Oliviers et repartir dans de l'activité. Et l'histoire a une direction. Si Jésus ne l'avait pas dit, j'aurais du mal à le croire, mais c'est lui qui le dit. Et nous non plus, nous ne sommes pas invités à regarder, à rester les yeux fixés au ciel, en campant sur le mont des Oliviers, mais nous sommes invités à le faire en servant dans notre environnement, quel qu'il soit, là où nous sommes placés, en agissant, en faisant fructifier les capacités que Dieu nous a confiées, et nous sommes aussi invités à le faire en reconnaissant le visage de Jésus chez le faible, chez l'affamé, chez l'étranger, chez le malade, et en lui portant secours. Voilà les deux choses auxquelles Dieu nous convie, tout en attendant son retour. Et c'est tout sauf attendre ou agir. C'est attendre et agir. Je nous invite tous, et je m'invite en premier d'ailleurs, à veiller de cette manière. Amen.